Bonjour Marco, compte à rebours. Quoi ? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu Compte à rebours. Compte à rebours, une émission où il y a des histoires, des contes, des légendes, et voilà. Et donc, c'est parti. En avant, on va commencer tout de suite. Eh oui, parce que c'est le printemps. Il y a des soleils, non, un soleil, des fleurs par contre, et de l'herbe fraîche. Pourtant, ici, ou plutôt là-bas, c'est la guerre. Et puis là-bas, plus loin, une catastrophe nucléaire. Comment garder la pêche ? Il faudrait une sérénité et un détachement digne d'un yogi himalayen qui peut nous montrer le chemin. Eh bien, les histoires. Particulièrement celles choisies aujourd'hui. Elles sont un peu étranges. Si vous les comprenez, tant pis. C'est quand même un début. Si vous ne les comprenez pas, tant mieux. Il ne vous restera plus qu'à ressentir. Voilà une question qui nous taraude. Un adage dit « À toute question qui commence par « pourquoi », il y a une réponse qui commence par « parce que ». Martin Buber a raconté dans Gog et Magog l'histoire d'un homme qui, sur son chemin, rencontra une lourde charrette renversée qui lui barrait la route. Le paysan qui conduisait la charrette demanda au voyageur de l'aider à la redresser. Comment deux hommes pourraient-ils soulever une charge aussi formidable ? Se demanda l'homme. Et il répondit : C'est inutile, je ne peux pas. Le paysan se mit alors en colère. Et lui dit, tu peux parfaitement, mais tu ne veux pas. Voilà la vérité, tu ne veux pas. Touché, le voyageur se mit au travail. Il trouva des planches et aida le charretier à les glisser sous les roues. Puis les deux hommes se servirent d'un levier, pesèrent de toute leur force. La charrette oscilla, bougea et ils parvinrent à la relever. Le paysan caressa les flancs de ses bœufs qui haletaient et remit en place le chargement. La charrette, un peu plus tard, tirée par les bœufs, se remit en marche. Le voyageur dit au paysan « Permets-moi de te suivre un peu, mais avec plaisir, accompagne-moi. » Ils se mirent à marcher côte à côte. Après un moment de silence, le voyageur demanda au paysan « Comment as-tu pu penser que je ne voulais pas ?» Ben, je l'ai pensé justement parce que tu as dit que tu ne pouvais pas. Personne ne sait qu'il ne peut pas faire quelque chose avant d'avoir essayé. Mais comment as-tu pu penser que je pourrais le faire ? C'était juste une idée comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, une idée comme ça ? Mais qu'est-ce que tu insistes ? Tu veux vraiment savoir, lui dit le paysan. Eh bien, ça m'est venu à l'idée quand j'ai vu qu'on t'avait envoyé à ma rencontre. Ah bon ? Tu crois donc que ta charrette s'est renversée pour que je puisse t'aider ? Et pour quelle autre raison, mon frère ? Dit le paysan. Un ermite vêtu de quelques hardes, les pieds ensanglantés par les rochers et les épines, la tête brûlée par le soleil, courait sans fin dans le sable et criait à tous les échos du désert. « J'ai une réponse ! J'ai une réponse ! Qui a une question ?» Vous connaissez tous l'histoire de la lampe ou de la bouteille dans laquelle se trouve un génie. Et qui n'a pas rêvé, bien sûr, de trouver sur la plage, par exemple, hein, pourquoi pas, ou n'importe où ailleurs, dans son grenier, une telle bouteille dont on peut ôter le bouchon ou frotter la surface pour faire apparaître le génie qui va vous proposer, bien sûr, pour vous remercier de l'avoir mis en liberté, vous proposer trois vœux. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnages dans des histoires multiples, même innombrables. On pourrait faire une émission de plusieurs heures uniquement sur ces histoires-là. Mais en voici une que je trouve très bien, c'est l'histoire d'un pêcheur. Donc, je vous passe donc toute l'introduction, il a découvert la bouteille, il l'a ouverte, le génie est sorti, formule trois souhaits et je les exaucerai. Quel est ton premier souhait ? Le voici, dit le pêcheur, je voudrais que tu me rendes assez intelligent pour que je fasse un choix parfait pour les deux souhaits suivants. C'est malin, dit le génie, mais c'est accordé. Et maintenant, quels sont les autres souhaits ? Le pêcheur réfléchit un instant et répondit « Merci, je n'ai pas d'autres souhaits. » Voici la leçon qu'un roi du sud de l'Inde reçut d'un voleur. Désireux d'apprendre tous les secrets du vol, non pas dans l'intention de voler lui-même, bien sûr, puisqu'il était roi, il n'avait pas besoin de voler, mais pour mieux rendre la justice, il fit convoquer un fameux voleur et lui demanda des leçons. L'homme parut très étonné et même scandalisé. « Moi ? Moi ? Un voleur ? Qui a pu te convaincre d'une pareille fausseté ? J'ai toujours vécu très honnêtement. Comment pourrais-je te donner des leçons de vol ? Je n'y connais rien. » Et ainsi, protestant de son innocence et se déclarant indigné de la malveillance de ses voisins qui sans doute l'avaient dénoncé pour détruire sa très bonne réputation, l'homme fut relâché. Cependant, quelques minutes après son départ, le roi s'aperçut qu'une bague précieuse manquait à sa main. Aussitôt, il fit arrêter l'homme. On le fouilla sans trouver la bague, qu'il avait déjà pu refiler à un complice, hein, bien sûr. Et cette fois, pour faute de lèse-majesté, l'homme fut jeté en prison et condamné à être empalé dès le lendemain. Ce soir-là, le roi ne pouvait pas s'endormir. L'esprit troublé se rappelait les protestations d'innocence que l'homme avait fait entendre aussi bien dans le palais qu'à l'occasion de son arrestation. Au milieu de la nuit, le roi se leva et descendit jusqu'à la prison. On le fit entrer, ombre silencieuse, et il entendit le prisonnier, seul dans sa cellule noire, qui priait avec ferveur, pleurait doucement et continuait à se dire injustement persécuté. Le roi, que le prisonnier en aucune façon ne pouvait apercevoir, se retira sans bruit, très ému, et décida de relâcher le prisonnier, convaincu de son innocence. Après quoi, le sommeil vint à lui. Le lendemain, libéré, l'homme fut introduit auprès du souverain. Il passa rapidement ses deux mains l'une contre l'autre, faisant apparaître la bague du roi. Puis il la saisit entre deux doigts et la lui rendit avec tous les signes d'obéissance et de respect. Le roi, fort étonné, lui demanda les raisons de son comportement. « Tu m'as demandé des leçons, » lui dit le voleur. « Voici la première. Un voleur doit toujours se comporter en apparence comme un très honnête citoyen respectueux des lois et des croyances. » Et voici la seconde. Il est absolument essentiel qu'il affirme son innocence, même quand il se trouve à toute extrémité. Veux-tu que nous fixions la troisième leçon ? Une histoire juive montre un rabbin qui demande à ses étudiants « Comment sait-on que la nuit s'est achevée et que le jour se lève ?»« Au fait qu'on peut reconnaître un mouton d'un chien, » dit un étudiant. « Non, ce n'est pas la bonne réponse. Au fait qu'on peut reconnaître un figuier d'un olivier ?»« Non. » Beaucoup de questions, de réponses fusent, mais chaque fois le rabbin dit « Non. » Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, comment le sait-on ? Demandent ses étudiants. Quand nous regardons un visage inconnu, un étranger, et que nous voyons qu'il est notre frère, à ce moment-là, le jour s'est levé. Thank you.
Ah non, 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 tabaki uri. Oh! Haruyo san atu haru same ni. Yayoi no otora ni sakura jiro.
On dirait bien ça le générique ou le jingle, comme on dit, de notre petite série d'histoires zen qui nous viennent du Japon et notamment de l'univers du bouddhisme zen assez spécial. Alors, deux histoires aujourd'hui. Un homme vint auprès d'un maître vénéré et lui dit « Quand j'invoque le nom du Bouddha, et que, envahi de sommeil, j'en viens à négliger cet exercice, comment faire pour vaincre cet obstacle, maître ?»« C'est très simple, » lui répondit le maître. « Invoque le nom du Bouddha quand tu es éveillé. » Un disciple vint trouver le maître Joshu. « Maître, s'il vous plaît, quelle est la véritable histoire du bouddhisme? Enseignez-moi. »« Tu as terminé ton repas ?» demanda le maître. « Oui, maître, j'ai terminé. Alors va laver ton bol. » Mais aujourd'hui, on a droit à tout, les histoires zen et aussi Nasreddin, le retour, enfin il revient régulièrement. Nasreddin a demandé à visiter des prisonniers afin de leur apporter les réconforts de la religion. Et le voilà qui fait la tournée des prisonniers et qui leur parle. « Par Allah, le miséricordieux, dis-moi, de quoi es-tu coupable ?» demande-t-il à l'un d'eux. « Moi, je suis innocent, complètement innocent. Et toi ?» Moi aussi, je suis innocent, nous sommes victimes d'une erreur judiciaire. Et toi? Moi pareil, je suis un honnête homme. Étonné, Nasreddin en interpelle un quatrième, un cinquième, un sixième, et tous proclament être innocents. Il y a quand même un homme assis dans un coin, et lui dit, toi non plus, tu n'as rien à te reprocher, je suppose. Oh, oh que si, moi je me reconnais coupable de dizaines de vols. Alors Nasreddin, inquiet, se tourne alors vers les geôliers qui l'accompagnent. Il faut vite libérer ce gredin, sinon il va contaminer tous les autres. On dit que Nasreddin dirigea lui-même la construction de son mausolée selon les plans qu'il avait faits. Un mausolée, bien sûr, pour être enterré. Le maçon qui l'a embauché lui demande une avance d'argent selon l'usage. « Pas d'avance, » lui répond Nasreddin. « Je te paierai ponctuellement quand tout sera achevé. » Bon, le maçon se met à travailler d'arrache-pied pour satisfaire son entrepreneur en respectant le projet dans les moindres détails. Il estime son ouvrage parfait. « Tu n'as pas fini, » lui dit Nasreddin au terme d'une inspection soigneuse. « Ben, j'ai pourtant fait tout ce que tu m'as demandé. Peut-être, mais tu n'as pas encore fourni la pièce essentielle. » « Laquelle ? Eh bien, le corps !» Et voilà, donc plein d'histoires, Nasreddin, des histoires zen, et du coup, eh bien, l'heure a passé, ou plutôt la demi-heure, ou les 20 minutes. Donc je vous dis, la semaine prochaine, c'était Marco dans Compte à rebours, on se retrouve mercredi prochain.